Fire.
Yes, sir, Jeff.
Il y a des auditeurs qui nous écrivent.
Oui, monsieur.
Travaille dans le Vieux-Québec.
Ouais.
Ben, le maire, là, pour une petite marche qu'il pourrait prendre entre l'hôtel de ville puis certains commerçants du Vieux-Québec pour aller chercher un lunch, il embarque dans son char.
Ah, des fois, il est à, écoute, il est à trois pas de l'hôtel de ville pour aller manger au restaurant, puis il embarque dans le véhicule.
Il embarque dans son char.
Il y en a qui vont dire que peut-être que c'est pour des raisons de sécurité. Là. Soit dit en passant, il y a plein de maires au Canada. Entre autres, le maire de la mairesse de Toronto qui a pas de chauffeur.
Ouais.
Elle n'a pas de garde du corps. Elle se promène, puis elle peut aller dans le transport en commun. Mais à Québec, c'est assez particulier. Les députés fédéraux aussi, Yves-François Blanchet, t'as pas de bodyguard, là. Quand elle est venu faire un tour en studio ici, il se promène avec sa voiture, puis tout va bien. Mais on a décidé qu'à Québec, ça prenait un chauffeur. Fait que peut-être qu'il va se défendre en disant que c'est des raisons de sécurité.
Hey, attends une minute, on comparait avec la mairesse de Montréal, Soraya Ferrano-Martinez, tantôt. Ouais. Elle n'a pas de chauffeur, elle, quand elle a fait ses crevaisons, elle était toute seule dans le stationnement de la station.
Effectivement, elle n'avait pas de chauffeur. Ouais.
Ben, dans vidéo. On le sait pas.
Valérie Marchand avait un bodyguard.
Ouais,
Valérie
ça,
Marchand.
Ça.
Valérie Plante, excusez-moi.
Ça, c'est sûr.
Elle avait un bodyguard. Mais pour ce qui est de Soraya Martinez, je pense qu'elle n'est pas, tout le temps accompagnée. Elle peut être accompagnée à sa demande.
Ouais.
Donc, voilà. Max, sur le. Puis les écoles aussi, comment tu fais pour leur conduire ton enfant à l'école?
Mais ce que je suis content, c'est qu'une fois qu'il va avoir le tramway, il va pouvoir embarquer dans le tramway, faire une station, aller manger.
Non,
venir...
Ça marchera pas de même.
Il fera pas de même?
Non.
Max, t'es sûr?
Sur la route.
C'est pas mal les points chauds habituels. Là, en 4 sud, petit ralentissement, hauteur de la 40 et la 20 dans les deux directions, la hauteur Taniata en raison des travaux. C'est au rouge.
Merci. Prochain sujet, on peut lire ça sous la presse canadienne. Ça a été publié hier aux alentours de 15h. Les 9 plus grandes organisations syndicales du Québec qui viennent de déposer une plainte devant le Comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail contre une loi du ministre du Travail, M. Jean Boulet. On dit que l'Organisation internationale du travail, c'est une agence des Nations unies à laquelle siègent des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs qui provient de 187 États membres. Elle a pour objectif de défendre les droits de la personne en lien avec le travail ainsi que la justice sociale. Et c'est une loi qui fait surtout parler d'elle parce qu'elle établit le principe de cotisation syndicale facultative en plus de la cotisation principale pour financer certaines activités d'un syndicat comme la contestation d'une loi ou certaines campagnes de publicité sur un sujet à caractère politique de nature partisane. Et c'est une loi qui impose également aux organisations syndicales une reddition de comptes plus élaborée par des états financiers, vérifier les exigences variant selon les revenus du syndicat. On a le plaisir d'en parler avec un ex-syndicaliste. C'est notre préféré, c'est Marc Ranger, conseiller stratégique.
Hey, salut. Ben oui, je suis le seul, là.
Ben,
fait que je suis ton préféré.
Ben, en fait, je trouve que depuis que tu n'es plus un syndicaliste, tu sembles plus ouvert à discuter avec des gens qui trippent pas tant sur le syndicat.
Mais tu sais, je vous avais déjà dit que j'ai toujours été le même, sauf qu'avant, je le faisais avec mes gens à l'interne, pas sur la place publique. Ouais. Donc, ce que je faisais, c'est que je les challengeais quand je trouvais que ça n'avait pas d'allure. J'exerçais tout mon poids pour tenter d'influencer pour que les gens, fassent pas tel ou tel geste. Je faisais ma job, mais plus derrière des portes closes. Ouais. Mais j'avais les mêmes opinions. D'ailleurs, je voulais te dire, parce que vous parliez de chauffeur du maire, là, à Montréal, dont j'ai négocié pour à la ville de Montréal. Et pour le maire ou la mairesse de Montréal, il y a un chauffeur. Mais comme vous le disiez, la nouvelle mairesse ne le prend pas toujours.
Exact.
Mais il est toujours là. Moi, j'étais à l'hôtel de ville l'autre jour, j'ai jasé avec lui. Et c'est un col bleu. Donc, il fait partie, il est syndiqué, c'est avec les cols bleus de Montréal. Puis à l'époque, juste une petite histoire, mais le maire Coderre m'avait approché parce qu'il trouvait que ça n'avait pas de bon sens que les chauffeurs de maire soient chez les cols bleus. Et il était prêt, il disait, je suis prêt à regarder des choses, à vous céder, mais je voudrais que le chauffeur du maire soit exclu du syndicat. Je dis, non, monsieur Coderre, là, avec beaucoup de respect, mais moi, je suis très, très fier de pouvoir dire que le chauffeur du maire est un col bleu. Alors, voilà.
Voilà. Marc, on revient à nos moutons. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es contre ça, toi, le principe de cotisation syndicale facultative? Moi, je trouve ça intéressant.
Non, puis cette loi-là, je l'ai dit, moi, je compte, parce que c'est toujours sous des beaux titres que se cachent les attaques à des droits. La gouvernance puis la transparence syndicale, une meilleure gouvernance, qui peut être contre ça? Mais quand tu regardes dans les faits, cette loi-là, parce qu'on dit toujours qu'on est contre la bureaucratie, mais elle met énormément de contraintes de fonctionnement des syndicats. Puis normalement, quand tu fixes, je m'en donne un exemple bien simple, là. Tu vas fixer la cotisation syndicale, tu fais pas ça chaque année, là. Les gens, à un moment donné, vont avoir une assemblée, ils vont voter que pour avoir des services, etc., voici, je vais payer 1,5 % de mon salaire brut sous forme de ma cotisation syndicale. Puis là, ça, c'est fait. Puis une fois de temps en temps, là, une fois par 5, 6, 7 ans, il peut y avoir des modifications qui sont faites. Là, ce que le ministre Boulay a fait, c'est qu'il a introduit qu'à chaque année, tu vas devoir présenter un volet où ça va être ta cotisation principale, ce qui n'est jamais arrivé avant puis qui n'existait pas au Canada. On divise la cotisation en deux et le gouvernement a décidé qu'est-ce qui relevait d'une cotisation qui devrait être facultative. Puis pour simplifier ça, c'est si vous voulez faire des campagnes, puis ça ne touche pas directement les conditions de travail de vos membres, si vous voulez faire ceci ou cela, vous devrez prévoir à l'avance, séparer ça en deux. C'est très, très lourd et toutes les mécaniques à l'interne de la loi pour rendre des comptes, il y aurait eu une manière de faire ça beaucoup plus simple que ça, mais c'est très lourd et c'est ça. Beaucoup de syndicats disent que c'est une entrave à notre liberté d'action syndicale.
Parfait. Entrave à la liberté d'action syndicale. Mais ça brime mes droits. Moi, supposons que je rentre sur dans une entreprise et je ne veux pas être syndiqué. Marc, je suis obligé d'être syndiqué. Ça brime mon droit parce que je ne veux pas être syndiqué, mais à cause de la formule RAND, je suis obligé d'embarquer dans le syndicat. Ça brime aussi mon droit, là.
Bien, ce qui a été décidé au Québec, là, comme cadre juridique, c'est qu'à partir du moment que dans une organisation, 50 % plus 1 des gens qui travaillent décident qu'ils veulent être syndiqués, c'est tout le monde qui l'a 100 %. Pourquoi? C'est un équilibre pour assurer une paix industrielle, faire en sorte qu'à un moment donné, si la majorité des gens décident qu'ils veulent être syndiqués, c'est tout le monde qui va l'être dans une organisation. Il y a d'autres modèles. En France, c'est pas le cas. Mais au Québec, c'était le modèle qu'on avait choisi parce qu'à une époque, il y avait des conflits très antagonisés, puis au Canada aussi. Et à un moment donné, cet équilibre-là a été trouvé pour faire en sorte que c'est une règle démocratique. On peut la challenger, mais si tu as 50 % plus 1, les gens qui décident qu'ils le sont, ils le sont.
Est-ce qu'on a mis ça en place parce qu'on s'est rendu compte que dans les dernières décennies, les syndicats privilégiaient certains gouvernements à peut-être d'autres partis politiques qui pourraient prendre le contrôle?
C'est sûr que c'est une très bonne remarque, là. Les gouvernements puis certains partis étaient moins chauds à l'idée, là, de voir des syndicats intervenir. Mais tu sais, on voit plus ça depuis à peu près 15 ans, sauf exception. Mon ancien syndicat canadien de la fonction publique au Canada, ils appuient à la vie, à la mort, le NPD. Puis moi, j'ai toujours questionné cet appui indéfectible-là. Mais sinon, au Québec, suite à certaines aussi décisions qui ont été rendues, les syndicats sont beaucoup plus réservés. Ils vont plus dire, ben voici, nous, nos enjeux, puis prononcez-vous parti politique là-dessus. Puis là, ils vont dire à leurs membres, regardez, la CAQ est contre ceci ou que... Mais qu'un syndicat prenne carrément parti pour un parti politique, on voit beaucoup moins ça parce que les membres ne l'acceptent plus aussi, là. Les membres vous disent, laissez-nous voter, laissez-nous librement faire nos choix.
Marc, est-ce que on parle de ça beaucoup au niveau des cotisations parce que les organisations syndicales, dans les dernières années, ont pas bien fait leur travail? Puis là, je sais que Magali Picard va me dire c'est des anecdotes, là, mais les pick-up, le whisky, les gros steaks, le fait que moins en moins de gens se sentent protégés par leur syndicat, penses-tu que c'est un élément de réponse?
Bien, l'élément de réponse, c'est que je pense que les organisations syndicales, beaucoup se sont éloignées de leur base.
Beaucoup trop,
et puis là, tu vois qu'il y a, il y a eu une espèce de retour du balancier. C'est pas pour rien que les syndicats ont fait des grands états généraux, là, et c'est en train de se terminer, pour justement dire, on a entendu le message, comment on peut corriger le tir. Moi, je vous l'ai dit souvent, moi, je dis à mon monde, sortez du bureau. Les gens doivent savoir pourquoi ils payent des cotisations syndicales. Les assemblées doivent être plus dynamiques. On doit se coller sur le terrain à nos membres. C'est notre raison d'être. Et ça, oui, plusieurs organisations se sont éloignées de ça. Puis les syndicats se sont beaucoup judiciarisés parce qu'il faut dire aussi que le Code du travail donne beaucoup d'obligations aux syndicats. Puis moi, je disais toujours, à un moment donné, arrêtons de trop judiciariser puis revenons à la base. La base, c'est de parler à notre monde. Qu'est-ce que notre monde veut? Puis de faire des débats dans les assemblées. Fait que oui, il y a eu une certaine déconnexion, mais moi, je reviens toujours. Les syndicats ont, au cours de l'histoire, et ont toujours une très grande utilité, et c'est dans la mission des syndicats de participer aux débats sociaux. C'est qui Quel gouvernement est-il pour pouvoir dire aux syndicats, tu peux pas te prononcer sur tel enjeu ou tel autre enjeu? C'est dans la job et l'ADN des syndicats, même le barreau du Québec. C'est pour ça que là, je reviens à la nouvelle, les syndicats portent plainte à l'Organisation internationale du travail. C'est pas très contraignant, mais ils cherchent par là à faire une pression avant la campagne électorale, à mon avis, pour faire en sorte que un prochain gouvernement, ou que ce soit la nouvelle première ministre, mettre de l'eau dans leur vin. Mais ultimement, je pense que les syndicats cherchent à faire pression pour qu'un prochain gouvernement retire la loi 4, qui a été jugée même par le barreau du Québec comme étant une grave entrave à la liberté d'action syndicale.
Marc Rangé, quand on regarde la nouvelle loi qui est imposée par le gouvernement, on demande en fait aux organisations syndicales une reddition de comptes plus élaborée par des états financiers vérifiés, les exigences qui varient selon les revenus du syndicat. On ne peut pas être contre ça, là, une vérification des états financiers vérifiés.
Mais non, mais c'était déjà le cas. C'était déjà le cas.
Mais moi, pourquoi ils ont pris la peine de le mettre dans la loi?
Écoute, parce qu'ils ont poussé plus loin. Fait que c'était pas juste les états financiers. Puis la réalité, c'est que les plus petits syndicats, là, tu sais, t'as beaucoup, beaucoup de syndicats de 20 membres et moins, là. Fait que tu peux pas avoir des procédures qui sont lourdes. Oui, il y a des syndicats. Pourquoi c'est dans la loi? Parce qu'il y a des syndicats qui résistaient un peu à ça, que c'était pas nécessairement dans leur culture, dans leur pratique, puis les membres devaient se battre pour avoir les détails. Mais là, tu sais, le gouvernement va très, très loin de dire publier vos salaires, publier les dépenses qui sont reliées à la cotisation facultative, les salaires qui sont reliés à ça, etc. Que le gouvernement fasse la même chose, on se rejasera. Que les associations
on sait comment le premier ministre gagne, on sait comment les ministres gagnent, on sait comment
les députés gagnent. Oui, mais leurs comptes de dépenses ne sont pas étalés. Ah, ouais. Le Conseil du patronat du Québec, qui a une idée comment ça fonctionne, ça, là? Ben non, mais là, les syndicats, par exemple, eux autres, là,
Est-ce que c'est ça que Stephen Harper voulait faire il y a quelques années? C'est-à-dire que vous obligez à montrer vos livres?
Mais il voulait aller plus loin parce qu'il voulait s'attaquer à la cotisation syndicale. Puis ça, pour les syndicats, c'est très, très dangereux de dire, tu sais, le prélèvement à la source, tu t'en as parlé, la Formule RAND, les employeurs sont obligés de la prélever puis la remettre aux syndicats. Puis ce que Stephen Harper voulait faire, c'est dire, non, les syndicats devront collecter les cotisations syndicales une à une. Et ça, c'était majeur pour les syndicats parce que là, tu aurais eu des déchirements, tu aurais eu des membres qui veulent pas être syndiqués puis qui auraient dit, même si l'organisation est syndiquée, courait après mes cotisations, moi, je ne vous les verse pas. Fait que, bref, ils voulaient aller plus loin.
Pour certains syndicats, l'argent rentre à pleine pelletée, Marc, puis on a des syndiqués qui nous écoutent en disant on ne sait même pas ce qu'ils font avec cet argent-là. C'est des millions et des millions qu'on donne aux syndicats année après année. Qu'est-ce que les syndicats font avec cet argent-là? Qu'est-ce qui coûte si cher que ça pour que les cotisations soient aussi élevées?
Oui, c'est une grande question, mais premièrement, je dirais à ces gens-là, allez aux assemblées syndicales, parce que ils sont obligés, les syndicats, de faire un bilan annuel détaillé où ils vont dire exactement où l'argent va. Fait que là, ils peuvent le voir. Puis ce qu'il y avait souvent comme problème, c'est que le syndicat ne remettait pas une copie aux membres. Mais il y avait un rapport qui était fait par rapport à ça. Puis tu sais, un syndicat, là, c'est des services. Moi, j'ai été directeur québécois, là. Plus de 80%, c'était des salaires. Donc, c'est parce que tu dois engager des négociateurs, négociatrices syndicales, des gens à la recherche, aux communications. Moi, je disais, plus j'ai de membres, plus j'ai de cotisations, plus j'embauche. Puis c'est le rapport de force que tu fais exercer. Le reste, c'est des bâtisses, des immeubles et un fonds de grève. Mais tu sais, les syndicats, contrairement aux légendes urbaines, ils font pas de profit. Oui, ils peuvent avoir des fonds de grève très élevés. Ils peuvent avoir de l'argent qu'ils mettent de côté pour des luttes anti-privatisation, tout ça. Mais c'est pas une business. Puis l'argent appartient aux membres, puis même des fois, je l'ai vu, quand des syndicats m'emmenaient en ont trop, ils se disent « OK, on va trouver des façons de rendre aux membres ou on va donner un certain délai de congé de cotisation, parce que là, à un moment donné, on n'a pas besoin de cet argent-là. » Tu sais, on s'aperçoit qu'avec les années, on n'a pas eu de conflit, qu'on n'a pas eu à investir tant pour telle ou telle chose. Fait que j'ai vu là des périodes où les syndicats réduisaient leur cotisation syndicale pour redonner aux membres.
Pourquoi on a pris la peine dans cette nouvelle loi de mettre en place là, plusieurs autres aspects que moi, j'aurais pas pensé. Là, la durée de tenue d'un vote, la divulgation des dépenses, les statuts et règlements des syndicats. Pourquoi on veut absolument que les syndicats montrent ça?
Bien, tu mets le doigt sur exactement, encore une fois, sur les vrais problèmes. C'est que dans le fond, le ministre Boulay a pris des exemples, puis j'avais dit en privé aussi, là. Il prend des cas isolés, comme l'Assemblée syndicale qu'il y avait eu à l'Alliance des professeurs de Montréal, dont on parle encore, qui a duré 7 heures, qui n'avait pas de maudit bon sens. Mais je répète, on ne fait pas des lois pour des cas d'exception. Moi, d'ailleurs, j'avais été très sévère envers l'Alliance. Je trouvais que ça n'a aucun bon sens, mais c'est souvent des noyaux qui veulent que l'Assemblée dure plus longtemps pour écœurer le monde, puis les gens partent, puis finalement, tu peux faire passer ce que tu veux. Puis, fait que ça, c'est pas acceptable. Mais le ministre a pris des exceptions, comme les dépenses à FTQ Construction, pour pouvoir intervenir et légiférer, puis il a joué sur l'opinion publique par rapport à ça. Mais moi, je répète, faire une loi, tu passerais ton temps à faire des lois, parce que là, la mode change, puis ça va être d'autres choses. Fait que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Mais oui, il y a des assemblées qui étaient trop courtes.
Trop longues. Les 9 plus grandes organisations syndicales du Québec déposent une plainte devant le comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail contre une loi du ministre du Travail, Jean Boulet. C'est l'Organisation internationale du travail. On nous dit que c'est une agence des Nations unies. Qu'est-ce que ça peut donner à long terme? C'est la première fois que tu vois ça, ce genre de truc-là, là, de fait du Québec?
Non, mais je pourrais pas te citer la dernière fois, j'ai déjà vu ça, mais c'est plus rare, effectivement. Mais tu sais, d'ailleurs, il y a une décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice. Dans le fond, l'Organisation internationale du travail, elle ne rend pas des décisions. Elle va s'adresser à la Cour internationale de justice pour donner des avis ou autres par rapport à des situations. Et c'est ce que les 9 syndicats cherchent au Québec, dans le fond, c'est d'avoir un avis sur le fait que cette loi-là, effectivement, ça constitue une entrave. Mais de ce que j'ai vu, parce qu'écoute, c'est rare comme procédure, puis je regardais même l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, ont des coupures cette année de 82 millions de dollars, parce que tu sais que les États-Unis sortirent d'à peu près tout, etc. Fait que c'est rough pour eux autres. Là. Fait que moi, je m'attends pas à des miracles, parce qu'ils ont des ressources qui sont, même si leur budget est énorme, mais là, c'est près de 10% de leur budget qui est coupé cette année. Mais 82 millions, fait qu'imagine, ça veut dire que leur budget est pas loin d'un milliard de dollars, là, à l'international. Mais dans le fond, c'est plus, je vois pas ça comme étant contraignant, mais c'est davantage une pression morale, parce que le Canada et le Québec avaient appuyé ça, ont scié. Ont ratifié ce protocole-là qui reconnaissait des droits au niveau du travail en 1973 ou 1972. Et donc, les syndicats disent, on l'a signé, ce protocole-là, et vous ne le respectez pas, on va demander un avis. Fait qu'ils cherchent à mettre de la pression, parce que c'est sûr, ça va être très long. Et les tribunaux au Québec sont capables de faire ce job-là. Vous comprenez, là, les syndicats ont déjà contesté devant la Cour supérieure du Québec. Ça va être long, ça aussi. Mais je pense que c'est vraiment à 6 mois des élections, 5 mois des élections et même moins, c'est d'essayer d'avoir un engagement des partis politiques de retirer à tout le moins des partis de cette loi-là. Je pense que c'est ça le vrai objectif.
Marc Rangé, c'est toujours un plaisir. T'avais-tu une question?
Plaisir, salut.
Ah, ben, j'avais juste un commentaire d'un auditeur qui était super pertinent où il disait « Moi, ce qui m'écœure, c'est qu'on utilise mes cotisations syndicales, exemple, pour aller faire des manifestations pro-environnement alors que moi, j'en veux moins de règles environnementales. » Le syndicat se perd-tu dans ces enjeux sociaux-là aussi, Marc?
Ben, il faut faire attention à pas trop se perdre. Tu sais, quand les syndicats vont à des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les Dubaï de ce monde. Je suis en train d'oublier là, les sommets sur le climat.
Magali Picard.
Les sommets sur le climat, moi, je pense qu'on s'égare un peu dans ce temps-là.
Mais c'est des beaux voyages, Marc! C'est des beaux voyages!
Ben, moi aussi, je rêverais, mais comme j'ai dit, je me le paierais de ma poche si je voulais y aller. Mais ce membre-là, Jeff, il a raison, mais je lui dirais, va faire tes commentaires en Assemblée générale. Va le dire, tu vas voir tes collègues qui soient d'accord avec ça, etc. Passe-les tes messages. Les assemblées sont ouvertes. Il y a le droit de faire ces commentaires-là.
Y a-t-il encore des goons dans ces assemblées-là, par exemple, qui vont dire « tais-toi ».
J'ai déjà vu des assemblées avec des goons. J'ai déjà vécu, entre autres, j'en parlais récemment, mais en privé, une assemblée extrêmement tough. Mais maintenant, est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Mais moi, dans ma carrière, les dernières années, là, je voyais plus ça. Mais j'en ai vu et j'en ai vécu. Et c'était pas jojo, là. Puis que les gens n'osaient pas s'en aller au micro.
Marc Rangé, c'est toujours un plaisir.
Salut.
Au revoir. Bye-bye. Marc Rangé, qui est conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques et spécialiste en relations de travail. Toujours intéressant d'entendre un point de vue d'un ancien syndicaliste. Moi, je suis anti-syndicat. Je sais que ça va surprendre bien du monde, là, mais je ne trippe pas. J'ai jamais voulu travailler pour l'entreprise qui était syndiquée parce que je considère que je suis la meilleure personne pour augmenter ma valeur dans une entreprise puis négocier mon propre salaire. Et j'ai pas besoin de personne... pour me dire combien je vaux, tu sais, face à mon employeur. Je suis capable de jaser avec mon employeur.
Ben oui,
malheureusement, il y a des gens qui ont besoin du syndicat de moins en moins en 2026, Jeff. Puis pour connaître un peu l'histoire du syndicalisme américain, tu sais, quand ça a commencé, les gros mouvements de syndicats aux États-Unis, ça avait sa raison d'être. Tu sais, on en faisait beaucoup sur la tête des travailleurs, puis il y en a qui crevaient à job parce que c'était des milieux qui étaient extrêmement dangereux. Des fois, on travaillait avec des produits qui étaient nocifs pour la santé. L'arrivée des syndicats a donné de meilleures conditions de travail, puis a poussé les employeurs à s'améliorer sur la sécurité, tout ce qui entoure, en fait, l'opération d'une entreprise. Puis bon, le mouvement a grossi, c'est arrivé au Canada, c'est arrivé au Québec. Dans les industries, on avait besoin des syndicats au départ. Mais aujourd'hui, force est d'admettre qu'il n'y a plus grand monde qui a besoin du syndicat, à part ceux qui trippent sur les syndicats, mais c'est pas souvent les... Là, c'est un bagage de préjugés, là.
Vas-y.
Un petit peu, je vais ramasser ma valise de préjugés.
Ramasse ta valise.
Ceux qui trippent sur les syndicats, c'est pas toujours les plus travaillants de l'entreprise.
C'est un préjugé qui se vaut. Moi, pour avoir travaillé dans plusieurs organisations syndicales, malheureusement, on sentait aussi que ceux qui avaient besoin de leur syndicat n'étaient pas nécessairement les plus vaillants et ceux qui faisaient le meilleur travail. Tandis qu'il y en avait qui se disaient, le syndicat n'a pas besoin de lui. Moi, je travaille bien puis j'avance. Moi, je voudrais jamais être syndiqué. Honnêtement, à un moment donné, moi, quand je travaillais au RTC, j'étais considéré comme un professionnel. Là, j'étais un coordonnateur. Puis le syndicat avait approché les coordonnateurs pour voir. Heureusement, les coordonnateurs, en majorité, on avait dit non, on veut rien savoir. On veut garder, justement, notre liberté d'action. Parce que il y en a plein qui se font prendre dans ce mouvement syndical-là. Moi, je me souviens, là, il y avait eu des moyens de pression pour les employés de bureau au RTC, là. Ben, il y en avait qui étaient très gênés d'être obligés de faire ces moyens de pression.
Il y a Vince qui m'écrit, il dit, Marceau, je suis pas pro-syndicat, mais on a encore besoin des syndicats aujourd'hui. Fait que là, je dis, ben, donne-moi des raisons. Je comprends que tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit ou ce que je dis, mais donne-moi des raisons pour lesquelles tu es en accord avec les syndicats en 2026. Ça va aider à la discussion. Marceau, tu n'as pas besoin de personne pour négocier, mais les gens ne sont pas tous comme toi. OK.
Ça, c'est un point... Mais justement, est-ce qu'il y aurait moyen de revoir la forme de syndicaliste justement pour peut-être avoir des représentants qui travaillent un peu plus sur les négociations salariales? Parce que c'est vrai que si on prend la fonction publique, puis là malheureusement il y a trop de fonctionnaires, il faut la réduire.
Ouais.
Mais tu sais, ça serait dur de... Tu sais, ça serait impossible que tout le monde négocie individuellement son salaire.
Peut-être. Hey, j'ai une question à poser pour tous ceux qui ont vu des techniciens Bell arriver chez eux dans les derniers mois. Moi, c'est ce qui est arrivé, là. Il a fallu que je me branche chez Bell pour mon Internet. Puis, il y a eu une problématique avec les meubles où je suis, là. J'étais pas sur la bonne centrale. Mon appartement, mon condo, était pas sur la bonne centrale, ce qui faisait en sorte qu'on devait changer l'adresse IP de la centrale pour que je puisse avoir accès à l'Internet haute vitesse avec Bell.
Mm-hmm. OK?
Donc, j'ai eu 4 techniciens différents qui se sont présentés chez nous, puis le quatrième a réussi à régler le problème avec un gars de Montréal.
Good!
Mais est-ce que tu savais que les techniciens de Bell, quand ils arrivent pour te porter la petite machine, ils la mettent en place, ils vérifient que le système fonctionne bien, mais ils n'ont pas le droit de la brancher. Ils n'ont pas le droit de peser sur « power ». Parce que s'ils pèsent là-dessus puis s'ils la branchent, il faut qu'ils chargent un 150-300$ de plus.
Ça n'a aucun sens.
Donc, les techniciens m'ont tout expliqué.
C'est
tellement facile.
C'est
tu prends la boîte, tu la branches, tu pèses sur power, puis là, ben, la boîte, le programme se fait automatiquement. Ça s'ouvre comme un ordinateur. Puis là, à un moment donné, tu as l'Internet. Mais eux autres n'ont pas le droit de le faire pour toi.
Fait que c'est toi qui le fais.
Est-ce que c'est une raison syndicale?
Ben, sûrement.
OK, mais c'est un peu cave.
Oui. Ben oui.
Tu penses que c'est ça? 418.
Ben, tu vois pas c'est quoi d'autre?
971-101, 418-971-102. Parce que moi, la boîte, le fil a été vérifié, tout fonctionnait. C'est de la fibre optique, mm-hmm. je pense. Puis avec son laser, il me dit, OK, c'est beau, tout fonctionne. Il te reste juste à prendre la boîte dans tes mains, la brancher, puis peser sur power. Puis là, je dis, mais pourquoi tu le fais pas? Il dit, parce que si je le fais, c'est 150 à 300$ que ça va te coûter de plus. Je vais être obligé de te le facturer.
Ben, ça a l'air d'une niaiserie syndicale.
Ouais, on dit que Vidéotron, c'est pareil par texto. En passant, vous réagissez énormément par texto, 418-971-1021. Plusieurs textos qui vont dans le sens que les syndicats vont beaucoup trop loin, mais compte tenu justement que je fais partie d'un métier qui s'étend à la grandeur de la province, J'ai besoin de mon syndicat pour les négociations, notamment salariales. Fait que c'est ce qui ressort beaucoup dans les commentaires.
C'est pareil pour eux. Branche tes ordi à 99$. OK. C'est un call de Bell.
Ouais.
Ça a l'air que c'est Bell qui demande ça. Mais sont-tu syndiqués, les techniciens de Bell?
Sûrement.
T'sais, ils ont le camion, tous sont identifiés à Bell. Je ne peux pas croire qu'ils travaillent pour une autre entreprise sans travailler pour
ouais,
Bell.
Ouais, non, d'après moi. C'est une bonne question.
Ils sont syndiqués.
Ils sont syndiqués.
Fortement, en forte majorité du moins, là. Par Unifor.
OK. Fait qu'un geste de 15 secondes qu'ils peuvent faire pour donner le meilleur des services à la clientèle, ils laissent au client parce que sinon, ils sont obligés de le charger. Eh boy. 8:36, on va faire une courte pause. Max, sur la route?
Pas si mal. Dans les deux directions, dans le coin de Taniata, sur la 20, il y a un petit ralentissement. Henri 4 Sud aussi, toujours hauteur de la 40. Capitale Ouest aussi, un peu au rouge entre Henri Bourassa et Laurentienne.
L'application Boulevard 102.1.